Merci beaucoup d'être venu. Et aujourd'hui, ce soir, je dirais que ce ne sera pas l'Académie des sciences de Marseille, ce ne sera pas l'Académie des lettres de Marseille, mais aujourd'hui, ce soir, on va glorifier les arts. Et vous avez une très grande chance, parce que vous avez vraiment une des grandes spécialistes de l'art, c'est-à-dire Daniel Girobi, qui va nous parler des grands ateliers du midi. Daniel, c'est à toi.
Merci pour ce début très aimable. Et merci à vous d'être venus. Le grand atelier du midi, c'est une des surprises de 2013 qui va se répartir entre le musée Granet à Aix-en-Provence, qui va vous montrer de Van Gogh à Cézanne les plus grands chefs-d'œuvre nés autour de cette ville, et au musée Longchamp de Marseille, autour de Matisse et Bonnard, la suite en empiétant dans le XXe siècle. Et je vous ai préparé un petit choix qui va suivre pas trop l'ordre chronologique, mais surtout l'ordre, une sorte de promenade géographique le long des Bouches du Rhône au bout de la Côte d'Azur, pour vous présenter justement cet extraordinaire musée éclaté, une centaine de lieux qui font une sorte de centre Pompidou éclaté dans tous les lieux où ont vécu les artistes, avec de nombreux musées monographiques consacrés aux plus grands d'entre eux. En prenant, alors merci à Jean-Robert qui va appuyer, ce qui n'est pas très commode, on n'avait pas...
Oui, mais il faut qu'il y ait la lumière, je ne sais pas comment il a mis la lumière. Non, la lumière.
Ben, la lumière y est.
Non, elle n'y est pas. Comment vous avez fait tout à l'heure?
Tout à l'heure, il nous a montré très bien comment
moi,
ça
j'étais pas.
Il me l'a branché et puis il m'a dit, voilà, tout va bien. Oh. C'est mes belles diapos que je vous ai mijotées pendant deux jours. On va le chercher, son téléphone. C'est ça, son téléphone. Elle est la lumière. Elle est dans l'appareil.
Je ne sais pas comment ça marche, mais pas du tout. Je l'appelle.
Ah oui.
Non, je vais lui téléphoner.
Il va nous faire un dépannage téléphonique. Alors si on fait un début chronologique, le premier lieu historique le plus ancien tout près de chez nous, c'est la fameuse grotte Cosquer. Et les parois peintes des grottes aux parois sculptées de la vallée des Merveilles au-dessus de Nice, étudiées par l'un de nos confrères Henri de Lomelet, montrent les premières techniques qui sont finalement très simples. Elles ont été étudiées soigneusement au laboratoire de recherche des musées de France où j'ai eu le plaisir de passer 5 années, et on a reçu beaucoup de matériel de la grotte Chauvet qui remonte à 34 000 ans, c'est-à-dire qu'entre Chauvet et Lascaux il y a autant de siècles qu'entre Lascaux et nous, et on a pu identifier de façon précise les matériaux des artistes de l'époque, c'est-à-dire les paires d'ocre minérales broyées, donc les ocres rouges, les noirs utilisés avec des matériaux végétaux brûlés, des charbons, des pierres blanches. On a trouvé une sorte de véritable petit atelier d'artistes avec des omoplates d'animaux qui servaient de palettes, des petits coquillages dans lesquels ils avaient préparé leurs couleurs, des coquillages qui n'étaient pas trouvés sur place, donc il y avait vraiment la fabrication des matériaux, des os creux qui servaient de chalumeau pour projeter les couleurs pouvaient aussi être passées au doigt, il y a de grands dessins qui sont faits avec des blocs d'hématite, et ces dessins ont des pleins et des déliés magnifiques, donc on voit que c'est un vrai travail d'artiste. On a pu identifier des mains différentes, un artiste dont le petit doigt est un peu cassé, il y a des mains positives et négatives, les pleins et les déliés suivent les formes de ces silhouettes d'animaux souvent présentées au galop, et ils suivent aussi les parois des grottes. Donc l'artiste va utiliser le renflement d'une roche pour montrer le corps d'un animal au galop. Les personnes qui ont travaillé à Chauvet nous ont aussi relevé des mouchages de torches. Donc on voit très bien qu'on a éteint une torche à tel endroit pour rallumer une lumière, parce que tout ça se passait dans l'ombre de ces longs couloirs. Et en fait, ces peintures étaient conçues comme une peinture cinétique. Et donc si vous imaginez que vous êtes les uns à la suite des autres avançant le long de ces parois peintes, elles sont éclairées avec des torches qui bougent, et ça accuse encore le mouvement de ces animaux au galop avec les ombres. C'est absolument fascinant de se rendre compte 20 000 ans après qu'on est véritablement devant des œuvres d'art, d'autant qu'on a aussi identifié le liant des graisses végétales qui ont permis de broyer ces couleurs, de lier ces couleurs. Donc, au fil de notre promenade, que j'espère ne pas faire sans image jusqu'au bout du temps qui m'est imparti, on va toujours considérer les mêmes constituants. Il y a les pigments, qui sont des pigments végétaux, animaux, minéraux, des supports qui sont la pierre de ces grottes. Au Moyen-Âge, les moines travaillent sur des parchemins, sur des vélins, quelquefois avec des rehauts de feuilles d'or. Ensuite, on passe avec le liant à l'œuf dans les ateliers du XVIe siècle, de la Renaissance au XIXe siècle, avec des panneaux qui vont être de bois tendre. Ensuite, on arrive à la toile, et le liant va passer de ces graisses animales à l'œuf, et puis ensuite à l'huile. Et en fait, pendant toutes ces années, tous ces siècles, les cinq derniers siècles, l'atelier va peu changer. L'artiste a des palettes, des pinceaux, il broie ses couleurs lui-même ou avec ses assistants. Les traités des peintres nous expliquent les recettes, qui sont très proches des recettes de cuisine. J'imagine que tous ces peintres savaient très bien faire la cuisine. Je vais vous lire une petite recette, en attendant que mon sauveur réussisse à me sauver. Prenez, c'est le moine Denis de Fourna au 5e siècle. Prenez une bonne quantité d'ail au mois de juillet ou d'août. Épluchez-le, écrasez-le dans un mortier, passez-le dans un linge propre au-dessus d'un vase et mettez-le au soleil jusqu'à ce qu'il soit bien coagulé. Veillez bien à ce qu'il n'y tombe ni poussière, ni poils, ni insectes. Lorsque vous voudrez dorer au pinceau, vous mélangerez ce suc d'ail avec la couleur afin que l'or adhère bien. Lorsque vous l'aurez appliqué sur un objet, vous le laisserez un peu sécher et vous appliquerez l'or en chauffant avec votre haleine. Pour obtenir de bonnes dorures, sachez d'abord trouver un escargot. Recueillez sa salive dans une coquille. Voici comment on la recueille. Mettez de la cire ou une bougie allumée devant l'orifice du trou par lequel l'escargot respire, et aussitôt il jettera toute sa bave. Recueillez-la, mettez-la sur du marbre pour la mélanger avec l'or et un peu d'alun, ajoutez-y un peu de gomme, vous pourrez alors vous en servir pour tout ce que vous voudrez d'une manière qui vous surprendra. Et puis il y a quelques conseils aussi pour les cheveux, par exemple. Il faut prendre une ocre foncée, brûlée au feu, jusqu'à ce qu'elle devienne rouge-noir. Pour les lèvres, mêlez du fard et du cinabre. Pour la bouche, employez le cinabre pur. Et pour l'ouverture de la bouche, mêlez-le à d'autres couleurs. Ceci pour les cheveux, les lèvres, la bouche et les sourcils des jeunes saints. Et on a ainsi des recettes qui vont être transmises par les ateliers. Les artistes travaillent souvent avec leurs élèves. Ce sont les plus jeunes qui préparent les choses les plus longues et les plus ennuyeuses. Et puis après, chacun, selon ses qualités, va mettre la main sur l'œuvre, l'artiste réservant les meilleurs morceaux, les visages, les mains, les choses les plus difficiles. Et puis, il y a des petits secrets d'atelier qui ne sont pas transmis. Par exemple, au laboratoire, on a découvert, intrigué par la blancheur absolument miraculeuse, éclatante des blancs de Vermeer, en le passant avec notre outil magique qui est à peu près la longueur de cette table, qui est un petit pour nous, il est grand, mais pour les spécialistes qui sont cachés là, il est tout petit. C'est un accélérateur de particules utilisé pour les œuvres d'art. Et sur les écrans de contrôle, quand on passait la partie blanche de certaines peintures de Vermeer qu'on voulait étudier de plus près, on voyait sur l'écran le signe de l'or. Et on s'est aperçu que Vermeer, en cachette de ses élèves, et notamment de ses faussaires qui ne l'ont jamais découvert, mettait un petit paillon d'or sous la couche de blanc, et la lumière ainsi ricoche et retraverse cet or, et le blanc devient absolument lumineux et beaucoup plus éclatant que les blancs des autres artistes de son époque ou même de ses successeurs. De même, on a étudié certains parchemins, les pointes de métal, par exemple, de Pisanello qui préparait lui-même les pointes avec lesquelles il dessinait, en comprenant leur composition précise, on a un élément absolument sûr pour identifier un dessin. Ainsi, on arrive à ajouter à l'œil du connaisseur, à de l'historien de l'art, grâce aux chimistes et aux physiciens de cette équipe de 80 personnes, une série d'éléments tout à fait objectifs qui permettent de préciser des techniques de certains des artistes, des techniques ou des matériaux, de retrouver par exemple dans le nombril d'une petite statue d'albâtre qu'on croyait rouge avec une patte de verre, de trouver que c'est un véritable rubis parce que c'est sur l'écran que ce rubis va être détecté. Je ne voudrais pas commencer à vous parler des choses pour vous les montrer à retardement. Je pense qu'il va réussir à trouver son chemin. Mais je vais revenir, je vais refaire un petit saut. Oui, ça, il faut que je l'éteigne. Ah !
C'est pas normal. Voilà. Attendez, il faut le mettre là-haut.
Il faut le mettre non dans l'encoche.
Voilà, dans l'encoche.
Il y était.
Ah.
Oui.
Et là, quand on appuie.
Ben, il ne se passait rien, alors que lui nous l'a fait marcher merveilleusement. Celle-là quoi ? Celle-là là ? Ah oui. Ah oui, c'est plus beau là. Oh, ça m'agace.
Il y a quelque chose qui l'a. C'est pas normal.
Si sinon on change d'appareil et je retransporte tout dans un machin long.
Est-ce que le papier est bien positionné ?
Ben oui, normalement.
Oui, il est bien. Je voulais raconter à ceux qui ne sont pas les académiciens à qui j'ai déjà raconté cette histoire magnifique, le fait que les aborigènes d'Australie travaillent exactement avec les mêmes matériaux, et c'était les premières diapositives que je vous avais apportées, que nos artistes préhistoriques. Et Jean-Pierre Mohen en avait réussi à en emmener une vingtaine, sortis vraiment de leur époque, jusqu'à la grotte de Lascaux. Alors, le voyage en avion s'était passé très bien. Ils avaient juste eu un moment de folle joie à Roissy en découvrant les escalators. Cet escalier qui marchait tout seul les avait énormément enchantés. Et à Lascaux, ils avaient fondu en larmes. Et l'interprète avait traduit ce qu'il disait. « Ce sont nos ancêtres qui nous parlent. » Et ainsi, il se trouvait de plein pied à travers tant de milliers d'années avec une culture qu'il trouvait très proche de la leur. Que je trouve une belle histoire vraie. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que je continue comme si j'avais des images ? Je raconte d'autres histoires. Donc je vous emmenais dans des des belles images que j'ai faites au long de ma longue vie dans l'atelier de Cézanne à Aix, que j'espère vous connaissez. Cet atelier merveilleux que Cézanne a fait peindre en gris, tourterelle, avec des fenêtres au nord, comme dans tous les ateliers. Et lorsqu'on est dans cet atelier, la personne qui le présente, il faut lui demander d'ouvrir le rideau qui cache les secondes fenêtres que Cézanne a fait ouvrir ensuite. Et ces fenêtres donnent alors cette lumière absolument identique à celle de ses peintures. Et vous avez dans l'atelier, à côté de sa cape et de son chapeau, qui est sur les photos que vous connaissez peut-être, que vous avez vu beaucoup dans l'exposition Cézanne d'Aix, dont le Cézanne avec son chapeau était l'affiche de cette exposition, on a tous les éléments des natures mortes sont installés dans cette salle, dans son atelier. On a encore le petit plâtre de l'amour, du Cupidon, quelques crânes, les boîtes de couleurs, les bouteilles qui ont posé pour les natures mortes, ces palettes, ces pinceaux, les tubes de couleurs tout écrabouillés, une chaise longue, et on a l'impression que le peintre vient de le quitter. Dans le mur, il y a une très grande fente qui a été préparée par l'artiste pour sortir la dernière grande toile qu'il a peinte, qu'il voulait exposer, les grandes baigneuses. La peinture avait, le châssis était monté dans son atelier, la toile a été tendue dans l'atelier, quand elle a été finie, il n'a pas osé la démonter, et il a préféré faire ouvrir le mur, donc du sol au plafond. Il y a une espèce de tirelire verticale géante qui a permis de sortir cette peinture. De Van Gogh, je vous avais préparé pour le séjour arlésien de Van Gogh un objet qui est au musée d'Amsterdam, qui est une petite boîte de laque de Chine, rouge, et dans laquelle se trouvent des petits brins de laine de couleurs complémentaires, ces petites pelotes qu'il utilisait pour partir sur le motif, pour faire des sortes d'essayages de couleurs complémentaires. Cézanne, comme l'avait fait avant lui Signac et Seurat, les post-impressionnistes, avaient appliqué avec leurs touches ponctuelles les mélanges simultanés et pas pigmentaires qu'avait découvert Chevreul sur cette loi des contrastes simultanés. Par exemple, posant l'un à côté de l'autre une touche de bleu et une touche de jaune, au lieu de mélanger ces deux couleurs et de poser une touche verte. Et quand vous êtes à une certaine distance, les deux couleurs jouent mieux l'une contre l'autre. Est-ce que tu as la réponse ? Bon. Alors, et tu as essayé le téléphone ? Parce qu'il aurait pu nous expliquer par téléphone. Alors, on va l'échanger de famille.
Désolé, mais c'est pas notre appareil.
On va mettre notre appareil. Il faut appuyer sur les deux pour.
C'est pas vous pour évoquer justement cette histoire dont vous parlez. Donc, je vais parler. Les couleurs sont restées les mêmes. Et simplement, quand on leur a donné des pinceaux, chose qui m'enchante, ils ont mâchonné le bout de bois, en trouvant que la partie de toile était une jolie terminaison pour le pinceau, et c'est avec le morceau de bois mâchonné qu'ils font leur peinture. Voilà une peinture sur écorce, et vous retrouvez les mêmes couleurs. Est-ce que je vous cache Alors là, nous étions au 16e siècle avec l'atelier de Ricard. Et voilà. Je vous disais que l'atelier avait peu changé. Un peintre qui s'appelle Ricard, et il est resté à l'EFT en 1752.
fontaine chevalet, la table oblique pour dessiner, la lumière venant du nord, et les éléments qu'on va retrouver, peut-être même certains d'entre eux, dans la table des âmes, la suivante. Les couleurs, elles sont séparées un peu comme les provisions dans les bocaux à pharmacie. Il y a là des pistils de safran, des graines de perse, et puis différents petits morceaux végétaux mis en poudre, que l'artiste va ensuite broyer. La suivante. Les couleurs sont souvent conservées avant l'arrivée merveilleuse des tubes de plomb dans des vessies de porc, qui se présentent comme vous le voyez ici. On va le faire ici. Je vous avais parlé du laboratoire et de cet outil magique, l'accélérateur de particules. Vous avez aussi un robot qui permet de faire des études en thermoluminescence. C'est comme ça, pour changer. Des microscopes électroniques à balayage qui nous ont permis de faire des coupes des matériaux des artistes et d'étudier ainsi la composition très précise qui permettent d'identifier de façon certaine les couleurs de certains artistes, par exemple Van Gogh qui envoie à son frère des listes précises de peintures qu'il veut recevoir quand il est à Arles ou à Auvers-sur-Oise. Et si quand on veut identifier et authentifier une peinture, on trouvait plusieurs couleurs qui ne figurent pas sur les listes qu'il commande, on aurait déjà un élément qui permettrait de douter. Ensuite, on connaît bien, grâce au microscope et aux études qu'on a faites, les compositions de ces toiles, 12 fils sur 10. Tous ces éléments permettent d'avancer de certitude en certitude et de vérifier qu'il s'agit bien d'une œuvre authentique. Voilà un atelier au XIXe siècle, celui de Basile, le peintre de Montpellier. Vous voyez que c'est resté à peu près toujours... C'est l'arrivée des tubes de plomb au milieu du XIXe siècle qui va tout changer. La couleur va être mise dans des tubes qu'on peut transporter facilement, dans des boîtes. Le peintre va pouvoir partir sur le motif. Les couleurs sont achetées, c'est dans ici, cette petite boutique s'appelle Au Rapin. Les artistes se fournissent donc chez leur marchand couleurs. Les couteaux à palette, les brosses plates, les pinceaux ronds vont entrer dans des boîtes sur leur dos. Ils les portent avec des chevaliers brillants. Et ils ont même une petite ombrelle pour se mettre à l'ombre sous le grand soleil. Et c'est ce modeste tube qui va faire le vrai bouleversement dans l'histoire de la technique des peintres. Et peignant dehors, ils vont peindre sur des formats plus petits. La lumière change, il faudra se dépêcher de finir dans la séance d'une journée. La touche va devenir visible, les touches des impressionnistes autour des années 70 jusqu'aux années 80 vont être en bâtonnets, en virgule, elles vont devenir visibles, ce ne sont plus les touches fondues sur des fonds sombres préparés en atelier et sur des grands formats. La suivante. Ça va devenir encore plus méticuleux avec les pointillistes qui vont utiliser les mêmes palettes, mais avec des touches cette fois-ci ponctuelles et systématiques, l'histoire des contrastes simultanés dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, Renoir a peint son ami Monet à Argenteuil. Et là, je l'ai mal rangé, vous pencherez la tête. Et vous voyez un jardin fleuri peint par Monet. Et vous voyez le régal qu'il a eu de décrire ces touches rouges des géraniums, les complémentaires de l'herbe verte et des arbres. Et voilà la boîte traditionnelle qu'on vend encore chez les marchands de couleurs aujourd'hui, la palette. Se fixe avec des petits clipés et ferme et protège les couleurs. Et on peut même intégrer sur un format qui est proche du couvercle des boîtes à cigares le petit paysage qui aura été peint sur le motif. Et vous avez devant, alors là, dans la peinture à l'huile, comme leur nom l'indique, le liant de ces couleurs est l'huile. Et devant, vous avez la boîte d'aquarelle traditionnelle où le liant est l'eau. Le blanc n'existe pas, alors que dans la palette impressionniste, c'est le noir qui est banni. Et chez l'aquarelliste, c'est la transparence du papier blanc qui va éclaircir les couleurs, délayées avec de l'eau, les plus soufflantes étant les aquarelles de Turner, qui sont presque toutes léguées à la Tate Gallery à Londres, et les appuyées avec des peintures. Voici une œuvre que vous connaissez peut-être, le musée Longchamp est fermé depuis longtemps, une peinture de Cyrien, qui représente l'entrée du port de Constantinople, que nous avons eu le plaisir de récupérer des douanes, qui les ont solennellement offertes au musée de la culture, qui les a solennellement offertes au musée de Marseille, après une saisie en douane, qui est une passée en fraude d'un tableau sans déclarer, le douanier le récupère sans vous dédommager. La suivante. Voilà le Cézanne attendrissant que je vous décrivais tout à l'heure avec son petit chapeau, qui pouvait passer des jours et des jours devant la même vue de la Sainte Victoire. Les peintures sont très différentes chez lui, qui a commencé par être avec le groupe des impressionnistes, parce qu'il essayait de transformer, de faire de la peinture un art durable comme l'art des musées. Donc il essaye, devant la Sainte Victoire, de réaliser une sorte de cristallographie géographique de cette montagne, avec des touches très, une peinture déléguée à l'essence, très fluide, qui va essayer de comprendre la structure même de la montagne, comme il va essayer de rendre le volume des pommes ou des crânes qu'il peint dans son atelier des Lauves, naturellement. Voilà sa boîte, avec son petit chevalier pliant, qu'il emporte sur le dos, il va marcher des heures dans la campagne, naturellement. L'atelier des Lauves, que j'espère vous avez visité, il a été sauvé grâce à John Riewald, qui jeune historien de l'art a pu y vivre et qui ensuite a battu le rappel des mécènes, dont la comtesse Lily Pastré, pour le conserver et qui, par chance pour nous tous, est resté dans son état historique. Voilà ce gris tourterel merveilleux qui est aussi celui des fonds des natures mortes de Cézanne et tous les objets de l'atelier, y compris la grande échelle pour arriver en haut des grandes baigneuses. Les bouteilles, les chevalets, la grande fente pour sortir les grandes baigneuses.
Ah oui, mais
la commode, les crânes des dernières vanités, un crucifix, les petits mannequins de bois qui servent aux artistes à vérifier qu'ils n'ont pas pris de fautes anatomiques. Et les personnes qui s'occupent de cet atelier renouvellent régulièrement les pommes et les oignons.
Oui.
Et donc il y a une très jolie odeur de pommes qui sèche sur les étagères. Le poêle, l'écran derrière lequel le modèle se déshabille. Ça ne fait pas beaucoup servir chez Cézanne parce qu'il est extrêmement pudique. Et même les grandes baigneuses ont été peintes et dessinées d'après des pompiers qui se baignaient dans l'arc, la rivière Boisy. Maintenant. Voilà, pour trouver le gris du fond, ce vase est dans l'atelier, le petit encrier aussi. C'est vraiment un des lieux magiques de la Provence. Le petit Cupidon, il est dessiné, on a mis derrière la reproduction d'un dessin. Le fameux joueur de cartes, avec un baigneur. Nous passons d'Aix à Arles avec Van Gogh, la petite chambre jaune qu'il affectionnait, où il espérait inviter ses amis, il est pris complètement pour un fou. Il part sur le motif de jour comme de nuit, et de nuit, pour le voir, il colle à la cire des bougies sur son chapeau. Là, vous voyez les Arléniens déjà soupçonneux devant cette peinture audacieuse, sont tout à fait inquiets de voir ce type. Qui va bientôt partir pour la ville de Saint-Denis. La suivante, sa palette, montre la frénésie avec laquelle il peint. Cette petite boîte dont je vous parlais tout à l'heure, moi je trouve ça absolument atteint de ces petites pelotes de couleurs. On retrouve, j'en ai un plein panier dedans, je vous en ai mis que deux ou trois, mais on peut vraiment faire le détail, une pelote, une peinture, on retrouve exactement les accords qu'il a voulu reproduire dans ses peintures. La palette telle qu'elle devrait être bien rangée, telle qu'il la dessine dans ses lettres à son frère Théon, il faut lire la correspondance de Van Gogh. C'est un des plus beaux textes de peintre. Il raconte ce à quoi il travaille. Il est sûr de son talent, il est sûr de lui, bien qu'il n'ait vendu qu'une seule peinture de son vivant. Et son frère, qui a une galerie de tableaux, le fait dire, et il lui envoie tous les matériaux dont il a besoin, bien souvent. Et il arrive ainsi à, dans son rêve d'arriver de Japon, du pays du soleil levant, c'est ce soleil qui vient retrouver en Provence. Il arrive au printemps, il est devant les fleurs d'amandier et des couleurs absolument légères qui vont être aussi de temps en temps des couleurs très vives et des contraires, des complémentaires opposés sur la même toile. Voilà, ça c'est des couleurs que vous trouvez par exemple dans les bouquets d'iris et dans les bouquets de tournesol. La suivante. Le café d'art de la nuit. Voilà, la suivante. Alors dans les couleurs de Van Gogh, il y a une couleur épouvantable, qui était bon marché et qu'il aimait beaucoup, c'est une laque géranium. Et cette laque géranium, elle a fané. Alors elle nous sert aussi beaucoup d'indicateurs pour certains tableaux qui ont été litigieux. Et quand on désencadre par exemple les tableaux du musée d'Orsay, on voit très bien la partie de ce rose géranium très vite dans la partie de la toile que le cadre cachait. Et dans la partie qui est à la lumière, la couleur a fané. On connaît de Van Gogh certains amis de ses amis qui étaient des copistes. Voilà une coupe de ce rose géranium qui est dans le portrait du docteur Gachet. Et ce qui est étrange, c'est que les copistes de Van Gogh avaient les bonnes couleurs. Donc, par exemple, Cuno Amier ou Blanche de Rousse, qui ont fait des copies très soigneuses de ses peintures, lui montre les vraies couleurs de Van Gogh et que les vrais Van Gogh n'ont plus les couleurs qu'il a utilisées parce que les couleurs ont changé. Alors là, ça n'est pas Van Gogh, c'est encore à Arles, mais c'est aujourd'hui, et encore un peintre barbu, c'est Pierre Alechinski, dont les œuvres provençales ont été montrées au musée d'Aix il y a 2 ans. Il y travaille sur papier, sur un papier japon, tenant toujours de la même main son bol de couleur à l'eau, avec des pinceaux japonais, bien sûr. Et sur ces petites bandes de papier, il va faire des compositions marginales, la suivante, qu'il va ensuite installer au sol. Et c'est sur des grandes feuilles de papier japon qu'il peint au sol des sortes de lavis géants. Moi, j'ai vu dans un film comment il les arrose carrément au tuyau d'arrosage. Et c'est ensuite sur toile que la peinture est marouflée. Bien sûr. Les outils sont très bien rangés. Vous voyez la taille impressionnante de certains pinceaux japonais qui sont accrochés de façon minutieuse. Des pinceaux qui s'ouvrent comme des éventails, qu'on appelle des pinceaux à chiffrer.
Ah bon.
Et tout ça vient du Japon, où ils achètent ces pinceaux préférés. Là, en plein travail. Et alors, nous passons d'Arles à Marseille, où, bien sûr, nous retrouvons César, et plus cette fois-ci un sculpteur, avec une série d'expositions que peut-être vous avez vues au fil des années au musée Cantini, où nous avons présenté à plusieurs reprises ces grands changements de technique. d'abord des soudures au chalumeau de résidus de placards métalliques qui étaient à vide planeuse les éléments qui lui permettaient de travailler loin du marbre de ses rêves qui n'avait pas les moyens de s'offrir. Vous avez donc dans la partie de gauche de cette image les sculptures faites avec cette technique de soudure au chalumeau d'éléments de fer qui souvent ont été ensuite coulés en bronze. Et puis à droite, une des dernières techniques de sa vie, des empreintes de corps, c'est son poing à lui, qui sont ensuite agrandies grâce à un pantographe à des échelles tout à fait surprenantes, bien sûr. Voici une de ses grandes poules sur patin à roulettes. Bien sûr. Après la première phase de ces éléments découpés et soudés au chalumeau, César a utilisé la technique de la compression et il a compressé d'abord des voitures et des motocyclettes, des grandes Harley Davidson magnifiques, et puis des bijoux également, et puis aussi des ménagères d'argent, tout ça devenait des blocs. Et il a, au fond, il est passé du ciseau traditionnel du sculpteur à la machine à compresser. Là, vous avez une compression de poils de vache. Il y a des compressions de plastique, des compressions en papier. Et la technique suivante, la troisième technique, a été celle des extensions. Il a découvert un matériau tout à fait extraordinaire qui remplit vos chaussures de ski. Si vous avez des chaussures de ski très épaisses et très légères, le polyuréthane expansé est mélangé dans cette espèce de boîte qu'il tient dans les mains. Et ensuite, la matière gonfle et mousse et se solidifie. Donc il a d'abord fait des coulées d'expansion qui étaient ensuite découpées à la scie et distribuées comme des tranches de pain à tous les assistants ravis et médusés qui partaient avec leurs petites tranches. Et ensuite, il a commencé à comprendre le système et à savoir comment diriger ces expansions. Et il s'est amusé à leur faire traverser toutes sortes de matériaux, de récipients tous plus bizarres les uns que les autres, souvent des récipients modestes, qu'il chinait aux puces. Et puis les expansions ont reçu une deuxième peau qui a été soigneusement laquée, poncée, et ça a donné lieu à toute une série de totems de toutes ces différentes époques. Nous avons dans les musées de Marseille une très belle collection de 34 œuvres de César de différentes époques, parfois des achats, parfois des dons d'artistes. Et vous avez un grand pouce que vous connaissez devant le MAC. Il y a aussi la grande hélice de son monument rapatrié. Il y a une sculpture aussi dans une école de Marseille. Il racontait pour cette fontaine faite à partir d'un singe, il avait beaucoup cherché le saint idéal et avec beaucoup de plaisir. Et ça, c'est un hommage à Picasso que je lui avais commandé avec une vingtaine d'autres artistes pour le musée d'Antibes. J'ai eu le plaisir de passer 10 ans entre Paris et avant de revenir à Marseille. Il a fait un centaure qui porte son visage barbu. À l'époque, il se laissait pousser un peu la même barbe que Cézanne. Et ce petit centaure, en plaque et en régule, qui est à peu près de cette taille, a donné lieu à toute une famille. Vous savez que les artistes ont le droit de faire 8 tirages dans tous les formats qu'ils veulent, plus 3 tirages d'artistes. Donc, hélas, il y a eu une étude entière de centaures, le plus grand étant au Carrefour Cèdre, Babylone. Et je connais une dame qui a la malchance d'avoir une fenêtre qui donne sur l'arrière, si j'ose dire publiquement, du centaure, et qui fait un procès à la ville de Paris pour qu'on lui enlève cette vie personnelle. Magnifiquement. C'est fini, alors oui. Mais comment il commence à enlever ? Ça va faire des bons à quoi ? Ça revient à zéro. Tout le temps à la fin.
Il y en a une qui est tombée. Faut la remonter. Faut bien en arrière.
Comment tu vas faire ?
Voilà. Là, c'est bon. Thank you.
Petite étape à Nîmes, c'est Claude Viala. Là, nous passons dans les années 70, où les artistes de Montpellier et de Nîmes créent un mouvement qu'ils vont baptiser Support Surface. Chacun va se mobiliser pour un aspect de la peinture, soit la toile et la couleur, soit le châssis, soit la structure de la toile. Et Viala décide sur des toiles de bâche, d'abord sur les draps, quand il a épuisé les draps de la famille et les nappes, il attaque des toiles de bâche. Il va travailler toujours avec la même forme, une sorte de palette arrondie qu'il positionne sur ses toiles depuis finalement 40 ans, avec des couleurs très matriciennes. Et cette toile n'est jamais tendue sur châssis, elle est librement posée sur le mur. Un peu comme le mouvement des impressionnistes, c'est un groupe d'amis qui expose ensemble mais qui se sépare vite, et aujourd'hui tous les membres du groupe, Viala, comme Dimles qui a beaucoup travaillé à Aix, où il enseignait à l'école des Beaux-Arts, travaille de façon travaille solitaire et ne font plus de groupe, c'est dissocié. Vous en voyez là une série à la Vieille Charité où nous les avons présentées il y a quelques années. La suivante. Au MUI, un artiste niçois, Bernard Venet, qui a été longtemps l'assistant d'Armand. Comme Armand Fernandez avait supprimé le D de son prénom, Bernard Venet a supprimé le D de son prénom. Il a suivi Armand aux États-Unis où il a eu beaucoup de succès et il vient de s'installer depuis quelques années au MUI où j'espère un jour faire une petite visite d'atelier. Il fait avec une grande machine en usine des coupes en fer Corten qui peut donc rouiller sans s'abîmer à l'extérieur. Daniel Drocourt nous donnera l'explication technique du Corten que je suis incapable de vous donner. Et ces grandes courbes, vous avez dû les voir quand l'artiste a exposé l'année dernière à Versailles. Elles étaient sur beaucoup d'affiches des deux côtés du grand portrait de Louis XIV à cheval à l'entrée du musée, du palais, du château, aux grandes dames des amoureux de Versailles qui trouvent que ça n'a rien à y faire là, contemporain. Suivante. Mais vous allez en voir beaucoup l'année prochaine où il expose ces grands tortillons géants à la campagne Parfait. La suivante. On voit l'air dubitatif de le dire en Alors là, vous allez être rassurés. Nous passons à Cannes, au Canet, et nous retrouvons Bonnard, qui vient s'installer dans les années 20 dans un tout petit villa. Et quand on visite cette petite maison, on est tout à fait étonné de voir tout ce qu'il a pu en tirer. Parce que lui, c'est sur le motif à l'extérieur qu'il fait des petits croquis sur des tout petits carnets. Mais c'est dans sa maison, dans cette petite maison du Canet, qu'il va indéfiniment peindre pendant toute sa vie son unique modèle, sa femme Marthe. Marthe vit pratiquement nue parce qu'elle fait de l'hydrothérapie, donc elle passe des heures à sa toilette et des heures dans sa baignoire. Les nues de Marthe sont ravissantes parce qu'elle est toujours perchée sur une petite paire de chaussures à talons rouges et la plupart du temps dans son bain. Et ça donne cette merveilleuse peinture où d'une salle que vous voyez, une salle de bain tout à fait banale avec des carrelages blancs, le soleil fait que l'artiste invente une espèce d'arc-en-ciel magnifique qui va diapter toutes les couleurs. Le petit chien qui est souvent présent dans ses peintures est toujours aussi présent dans la salle de bain où Marthe flotte comme une sorte de fantôme paisible, allongé. Du Canet à le musée Bonnard est le dernier musée consacré à un artiste qui se soit ouvert l'année dernière, arrive de Cagnes. On arrive à Cagnes avec Renoir. Renoir va passer toute la fin de sa vie à Cagnes, au Colette, en visiter cette maison au milieu des oliviers. L'artiste vieillissant a fait absolument le contraire de Van Gogh. Lui, il a eu peur que ses rouges fanent et il a monté tous ses tons avec un rouge qui, lui, a été solide et n'a pas fané. Donc, toute la peinture de la fin de la vie de Renoir est une peinture, hélas, tout à fait désaccordée. Et les photos de Renoir dans cet atelier des Colettes sont poignantes parce qu'il était atteint d'une arthrose déformante et on voit ses moignons de poignet déformés avec le pinceau qui est attaché avec une ficelle à son poignet et l'artiste a réussi à peindre avec un bonheur de vivre et de peindre ces jeunes campagnards qu'il a aimés représenter jusqu'à la fin de sa vie. Chagall va s'installer lui aussi à Vence. Là, c'est une œuvre tout à fait de ses débuts quand il arrive à Paris. Et de Chagall, je n'ai pas montré de détails particuliers parce que c'est une peinture au fond très classique. Ce qui est fascinant chez Chagall, c'est surtout jusqu'en 1924, cette manière de mystique de peindre son village, sa ville de Vitebsk et de ne pas oublier ses racines juives, son mysticisme religieux. Chagall, avant, s'est rapproché de son marchand, c'est Max, qui va faire de nombreuses expositions à la Fondation Max, qui ouvre dans les années 60. Et il va déménager pour Saint-Paul quand son adresse devient absolument impossible, à lui qui est quand même qui a le sens de sa gloire. Malheureusement, on baptise du nom d'Henri Matisse, qui a habité Vence pendant la guerre, l'endroit où Chagall habite, et c'est vraiment pour un peintre, c'est pas une adresse possible. À Vence aussi, s'installe Dubuffet à la fin de sa vie, il viendra y passer des longs mois d'été. Et vous avez là une peinture qu'il a léguée avec un ensemble de toiles magnifiques au musée des arts décoratifs de Paris. Je les ai souvent présentées. Peinture de paysage fait avec des ailes de papillons. Alors dans la liste des nouveaux matériaux des artistes, je chéris ce petit tableau extrêmement fragile. Mais il a aussi eu l'idée de faire des franges peintures de très grande taille en faisant des portraits de paysage, mais pas des, j'en ai pas à vous montrer malheureusement, mais je vous les raconte. Non pas un paysage qu'on regarde en face de soi avec une perspective, mais des gros plans de paysage qu'on regarde à bout portant, tel qu'on le voit à ses pieds. Donc ce sont des peintures avec du bitume, des cailloux, de la terre, des feuilles mortes, des, vraiment des tranches de paysage, mais comme un morceau de route. Et là, on voit à la fois la manière humoristique et en même temps critique de Dubuffet, qui écrit un livre que je vous recommande à cette même époque, qui s'appelle « Asphyxiant de culture », qui découvre aussi et baptise l'art brut, l'art de ce qu'on appelle les fous, les gens, ces peintres naïfs, qui sont enfermés pendant des années et qui crée des œuvres en dehors de toutes les règles et qui sont tout à fait extraordinaires, dont il va longtemps essayer de faire un don au musée français, ça ne marche pas, ça ne vous étonne pas, les peintres sont souvent en avance, et cette collection d'art brut extraordinaire atterrit finalement à Lausanne, au musée de l'art brut, que je vous recommande aussi de visiter. C'est une leçon magnifique de peinture et d'humanité. Et puis nous arrivons aux deux grands de la côte, Picasso, qui dès les années 20, il vient jeune marié avec sa danseuse Olga Koklova et leur fils Polo, les premières peintures de cette époque sur la côte où il habite à l'hôtel du Cap d'Antibes où il vit des villas à Jean-Lépin. Il y a même une villa où il repeint tout le garage et où la propriétaire lui demande de le remettre en état au grand désespoir des héritiers qui ont besoin d'essayer de faire enlever les couches de peinture qui recouvraient depuis les peintures de Picasso. qui n'est pas très grande, montre bien dans quel état le peintre se trouve. Il y vient très souvent, il y vient pendant les années où il a découvert un nouvel amour, Marie-Thérèse Walter, qui est mineur, dont il la cache quand il vient sur la côte, dans l'état de la fortune, qui est capable d'aller en nageant de Cannes jusqu'au île de l'Airain. Et les peintures de cette époque sont très étranges parce que, pardon de l'avoir le titre, vous donne le bon sens, Baigneuse de Bic, c'est une peinture qui est faite à l'envers sur le châssis, à l'envers de la toile que l'on peint d'habitude. Il y en a trois au musée Picasso de Paris et ça lui a permis de l'encoller, de mettre le sable de la plage et aussi des petits éléments d'algues flottées. Vous reconnaissez des morceaux de rejet d'algues que vous avez dû cueillir en vous baladant, en vous promenant sur les plages. La suivante. Il y revient 10 ans plus tard avec l'autre femme de sa vie, la nouvelle muse des Doramas. Et à l'époque, il vient souvent avec Paul Éluard et Luc Éluard, et Man Ray et la compagne de Man Ray. Ils habitent ensemble à un hôtel à Vente, bien sûr. Les grandes années, c'est l'époque de d'Antibes et de l'avant-dernier amour de sa vie. Si vous suivez les femmes et les lieux avec Picasso, vous trouvez aussi les techniques et les 7 grandes époques de 7 manières de sa vie. Et Antibes, il arrive au château de Madrid en 1946, après la guerre, après les années 6 de la guerre qu'il passe à Paris. Et grâce à Michel Sima, son ami photographe, tout est parfaitement documenté. Il décide en 1947 d'offrir à la ville d'Antibes tout ce qu'il a peint dans le musée. Coup de génie du conservateur de l'époque d'Or de la Souchère de lui offrir le deuxième étage qui est vide, dans lequel Picasso s'installe chaque après-midi. Donc on a à la fois les photos des œuvres qu'il peint et qui y sont toujours, leurs dessins préparatoires, leurs esquisses. La suivante. Il y peint avec Françoise Gillot, il a l'âge de la grand-mère de Françoise, il est complètement ébloui devant cette jeune femme peintre elle aussi, ils travaillent ensemble chaque après-midi dans le musée. La suivante. Après avoir pris le matin un bain à la plage, il lui donne l'occasion de sculpter des petits galets et d'en faire des colliers pour Françoise. La suivante. Et on le voit dans cette espèce d'atelier dans l'état dans lequel se trouvait le musée à l'époque, qui recevait très peu de visiteurs. C'était un petit musée d'histoire et d'archéologie. On lui donnait la clé qu'il emportait le soir et qu'il ouvrait quand il avait besoin. Il n'y avait qu'un seul gardien. Il avait aidé avec Michel Sima à trouver des matériaux. À l'époque de l'après-guerre, on a beaucoup de mal à trouver de la toile. Ils vont découvrir des plaques de fibrociment. On a du mal à trouver des couleurs. Non pas qu'elles soient rares, mais c'est le plan d'étude qui est devenu impossible. Mathis conseille à Bonnard, avec lequel il entretient une correspondance entre Nice et le Canet, s'il peut lui procurer des tubes.
Mesdames et messieurs, votre attention.
Rassurez-vous, je ne vous enfermerai pas. Donc le fibrociment comme support, et puisqu'il faut envoyer des tubes vides, pour en avoir des pleins impossibles, et il trouve chez un droguiste 13 pots de ripolin, et les peintures d'Antibes sont faites avec 13 couleurs de ripolin, celles que les pêcheurs utilisent pour repeindre leurs bateaux. La peinture, le premier grand fibrociment est une joie de vivre, qui est la peinture emblématique de cette époque, où il est complètement habité par l'Antiquité. Il est repris, dit-il, par l'Antiquité quand il arrive sur l'ancienne acropole d'Antipolis, qui est le château Grimaldi, avec le tambourin blanc que tient la danseuse, la muse du jour, entouré du centaure qui est Picasso, et des faunes qui dansent et des joueurs de flûte. Ce sont des petites bacchanales qui vont passer d'un format à l'autre. Voilà un autre grand triptyque. Voilà les 7 couleurs. Et puis deux ou trois toiles qui nous intriguaient beaucoup. justement à cause de la pénurie, et en faisant des radiographies, j'avais fait venir le muséobus du laboratoire de l'Université de France, et les radiographies nous ont montré qu'en fait, Picasso avait chipé dans les réserves des portraits de généraux et d'autres portraits sur lesquels il a carrément repeint. Donc on a aussi des sous-couches. Heureusement, ces personnes sont mortes sans enfant et je n'ai pas eu de reproche de dévoiler ce secret de Picasso. Voici une nature morte que j'ai mise à l'envers dans toutes ses émotions aux oursins. Les oursins sont toujours dessinés de la même manière, comme un soleil mais du dessus, ouvert avec ce petit corail au centre, et comme une espèce de scénographie des formes qui simplifie. Et puis, Claude, le fils de François de Lillo et Picasso, va naître l'année suivante. Paloma va suivre. La petite famille s'installe à Valoby, où ils rendent souvent visite à Matisse à Nice, et la villa de Valoris, la petite galloise, est une toute petite maisonnette. Les enfants dessinent sur la table de la cuisine, et Claude Picasso m'a raconté que quand il arrivait avec, il devait avoir 4 ou 5 ans, quand il arrivait avec son père pour rendre visite à Matisse, donc à l'hôtel Regina, le grand salon, les volières avec les oiseaux, ce vieux monsieur à barbe blanche qui ressemblait au Père Noël, qui les recevait dans son lit, ça l'impressionnait énormément. Et il allait souvent se coucher à côté du Père Noël, il restait bien sage. Et puis quand il revenait dessiner dans la cuisine de Valoris, à la Galloise, et qu'un dessin était bien réussi, il le signait Matisse, et là, ça allait mal pour lui. On cite aussi le grand peintre des années 55, 10 ans plus tard, c'est Nicolas de Staël, qui s'y installe à la fin de sa vie, sur un atelier des remparts, tout proche du musée. Il y arrive l'hiver, il arrive d'Espagne, il découvre tous les gris de Velázquez dans les gris d'Antibes. Il peint le fort carré que j'ai pu acheter, la suivante. Et reconstituer une salle avec une douzaine de peintures de Nicolas de Staël d'Antibes. Ça, c'était la seule qui y était, une nature morte que j'ai récupérée chez la propriétaire de la maison, des objets qu'avait posés pour Nicolas de Staël. La suivante. Des mouettes, la suivante. Des nuits, c'est l'époque où il est aussi amoureux d'une autre femme et ça perturbe beaucoup sa vie. Il a changé en type complètement de manière, il a abandonné cette peinture abstraite dont vous avez un bon exemple dans les collections du musée Cantini, et cette peinture à nouveau réaliste, le bouleversement sentimental vont probablement être la cause du suicide qui va arriver. Après la dernière toile qui peint dans le film, ce grand concert que j'ai marchandé et finalement réussi à acheter après 9 mois de transaction, une belle arrivée d'un monsieur furieux un mardi qui était Claude Berry, qui voulait visiter le musée et qui ronchonnait parce que le musée est toujours fermé. Mais j'essayais toujours de venir un mardi, alors pas de chance. Pendant le festival de Cannes, il commençait à être collectionneur et finalement je lui ai fait visiter le musée et à la fin de sa visite, voyant ce tableau qui l'a bouleversé, il a fait un chèque d'1 million de francs, qui était une grande émotion pour un conservateur, en me disant « Demain vous aurez le deuxième chèque d'1 million de mon nouvel associé qui est Jérôme Sédi. » Et puis quand vous avez les 2 premiers millions, après ça va tout seul. Et c'est vrai, ça a mis 9 mois, mais le tableau est toujours sur le mur auquel Nicolas de Staël le dessinait, sur lequel il n'était jamais venu. La suivante. Voilà. Vous voyez cette fois-ci dans le bon sens.
Oui.
Et dans cette lumière de fin d'après-midi, qui a été heureusement améliorée par mon successeur. Et le soleil n'arrive plus sur les partitions. La suivante. Matisse arrive à Nice dans les années 20. Sur la promenade des Anglais, où il ne fait pas toujours beau, et s'installe à l'hôtel Beau Rivage. Moi, je n'aime pas trop les débuts de Matisse à Nice. Entre 20 et 30, c'est des Odalis, des jeunes filles au piano, une peinture un peu conventionnelle, mais tout s'arrange. En 35, voilà encore la palette, telle qu'elle doit être constituée. Les artistes font toujours ça au début, puis après on mélange. Le voilà qui déménage à l'hôtel Regina à Signy. Ça, c'est une photo plus tardive. J'espère que ce n'est pas ces images qui sont tombées du salon. À l'hôtel Regina, les grands appartements sont magnifiques. Ils consacrent tout un salon à une volière de d'oiseaux, de pigeons et de tourterelles. Et je voulais vous montrer une autre peinture. Voilà. En 1935-1936, il part pour Tahiti. Et là, ça y est, il a compris qu'une nouvelle voie s'ouvre à lui. Il va travailler avec des plus grands formats. Il va simplifier de nouveau sa palette, comme dans les années 10. Et il utilise beaucoup les motifs des imprimés tahitiens, qui vont emporter. On va en trouver beaucoup dans son atelier qui est reconstitué au musée Matisse de Cimeray. Et notamment, on trouve à l'hôtel Regina ses gouaches découpées. Le nouvel outil que va utiliser Matisse rajeuni pour la peinture à vif, ça va être une paire de ciseaux. Je dessine à vif dans la couleur, je dessine avec des ciseaux, dit-il. Il fait peindre par ses assistants de grandes masses de gouaches de couleurs. Il a 37 couleurs parfaitement identifié, et dans ces gouaches, il va découper ces formes magnifiques qui vont être ensuite installées avec des épingles et puis définitivement fixées. Attends, un peu. Il dessine beaucoup les plantes et les fleurs, la maison est pleine de plantes et de fleurs, et il fait des séries de dessins extraordinaires. À Tahiti, d'abord, il nage les yeux ouverts, et il est ébloui par les coraux, la fleur sous-marine qu'il va dessiner ensuite. Il s'est fait préparer des petites boîtes avec le fond de verre pour, vous l'avez peut-être fait en vous baladant en bateau, pour voir le fond. Et puis, il essaie de faire des dessins. Une fois qu'il est content du dessin d'une fleur ou d'une feuille, il continue d'en faire les yeux fermés pour essayer de déshabituer sa main de l'habiter et de voir s'il a vraiment compris la forme et la vie de la plante. Bien suivant. Il est d'ailleurs obsédé par la crainte de perdre la vue, comme c'est arrivé à Degas. Et là, vous voyez dans la voiture moulante qu'il utilise après son opération, où il est soigné par une belle jeune infirmière qui va devenir la sœur Marie. Et cette sœur va le convaincre de décorer cette chapelle magnifique qui porte son nom et qui est avant ceci. Bien suivant. Voilà un menu de gouache bleue. Bien suivant. Voilà une bague. L'extrême simplification. Et voilà ces grands papiers collés avec des répétitions de formes sur de grands murs. Voilà une des chasubles de la chapelle Matisse qui ont été ensuite taillées et reproduites à l'identique par les religieux.
Mesdames et messieurs, votre attention